Moi, c'est André de Mbujimayi au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Le 10 décembre 2017, le monde a célébré le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Lors de la célébration cette année, l'accent a été mis sur la nécessité de la sensibilisation et mobilisation des élèves dans les écoles, collèges et lycées sur les questions de droits de l'homme. Un rapport du Bureau conjoint des Nations Unies à RDC indique qu'entre janvier et octobre 2017, au moins 420 femmes ont été victimes de violences sexuelles, soit plus d'une femme par jour. La même source rapporte qu'au moins 528 femmes ont été victimes d'arrestations arbitraires. Et dans tous ces deux cas, le rapport pointe du doigt les hommes en uniforme armé ainsi que les services de sécurité. Que faire pour améliorer cette situation? Nos deux lignes sont déjà disponibles pour vos interventions en direct. Les 081-890-4969-09-97-06-4969. Vous pouvez également commenter ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Willem Lungamba est à la mise en onde de Nico Kalambay, à la réalisation et au standard. Pierrot Elameji vous présente ce magazine sous la supervision de Martin Sebujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot Elameji.
La Déclaration universelle des droits de l'homme totalise 70 ans ou 70 ans, si on peut le dire ainsi. À l'occasion de cette célébration, nous nous fixons sur la situation des droits de l'homme dans notre pays. Beaucoup de dénonciations, beaucoup de rapports, mais aussi les efforts fournis pour améliorer la situation des droits de l'homme. La particularité mise sur la question de la femme, mais d'autres situations aussi qui se posent dans notre pays. C'est au centre de ce magazine qui ressort pour vous, Monsieur dit Bilondua. Simon, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot.
Vous êtes le chargé des programmes à l'ONG Fonds des femmes congolaises.
Oui.
Et à quelle est la particularité de la mission de votre ONG par rapport aux droits de l'homme?
Merci beaucoup. La particularité pour nous, c'est que nous voudrions voir un jour que les femmes vivent dans un monde, dans un Congo, sans violence physique et morale.
Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que globalement, si on ne peut pas d'abord prendre la question de la femme, si on regarde d'une manière globale, les choses ont-elles assez évolué sur le plan des droits de l'homme dans notre pays?
Bon, attendons oui, attendons non. Quand on regarde les cadres légaux, on peut dire que les choses ont évolué. Mm-hmm. Mais concrètement, sur le terrain, quand on regarde les faits, on peut dire que ça n'a pas du tout évolué. Et au regard même du contexte actuel, on peut conclure que ça n'évolue pas encore bien.
Ok. Quand vous parlez du contexte des textes légaux, il y a par exemple la loi en protection de l'enfant, il y a la loi sur les violences sexuelles. C'est dans les faits, disons, sur le plan papier. Mais dans les faits, qu'est-ce qui n'a pas évolué? C'est la compréhension de ceux qui doivent faire appliquer les lois ou bien de ceux qui doivent revendiquer leurs droits.
Oui, il y a les cadres légaux, c'est non seulement nationaux, mais aussi internationaux. Mm-hmm. Donc, la RDC a ratifié plusieurs instruments juridiques qui protègent les droits de l'homme en général, je veux dire, mais aussi les droits des femmes, les droits des enfants en particulier. Ça, c'est au niveau international, mais également au niveau national. Alors, qu'est-ce qui se passe si ce sont celles-là qui doivent réclamer leurs droits, qui ne les font pas? Ou c'est ceux-là qui doivent les mettre...
Il faut respecter la loi pour ses droits.
Écoutez, il y a des aspects auxquels il faut toujours revenir. Nous avons un cadre légal. Il y a des institutions qui sont reconnues par la Constitution, en fait, pour la mise en œuvre des lois qui ont été votées et promulguées. Maintenant, est-ce que ça s'efface? Quand on regarde très bien la couverture géographique de notre pays, combien, quelle est la proportion de la population qui a accès à un magistrat, on trouve que c'est insuffisant. Et donc, dans ce sens-là, on peut dire que ceux qui sont censés mettre la loi en œuvre ne le font pas bien. Également, si on a la loi est tenue à être connue des populations. Mais si on ne fait pas des efforts, on ne vulgarise pas assez cette loi, et donc, ceux qui sont, ceux qui doivent connaître cette loi, l'ignorent et deviennent de plus en plus ou restent de plus en plus victimes de cette même loi.
Exact.
Qu'est-ce que je veux dire? Une loi a été votée au Parlement, promulguée par le président de la République, mais qui n'est pas connue par les populations locales. Mais qu'est-ce que vous voulez que ces populations fassent de cette loi? Premièrement, elles ne la connaissent pas. Et peut-être même, si on la connaissait, celles-là qui sont censées la pratiquer, ils ne la font pas connaître à cette population. Et du coup, on devient victime de sa propre loi. Cette loi qui devrait
vous protéger.
Donc vous devenez
voilà.
Sa proie.
Il y a eu des lois, mais faudrait aujourd'hui que cela se suive dans les faits, comme ce qui a été relevé par les bureaux conjoints, les femmes qui ont été beaucoup plus victimes, et vous l'avez dit, vous voulez aujourd'hui voir les femmes vivre dans une société où leurs droits sont respectés, où elles peuvent s'épanouir. Franck, merci d'être avec nous. Vous nous appelez de Vienne. Bonjour Franck.
Oui, bonjour, monsieur la journaliste, bonjour à l'invité au studio, bonjour aux amis qui vont intervenir.
Et 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les femmes encore victimes dans notre pays avec ces chiffres que nous avons relevés, mais d'une manière globale, comment on peut arriver à faire des efforts pour améliorer la situation dans notre pays?
Oui, monsieur le journaliste, merci beaucoup. Je salue déjà ce que l'invité venait de dire, mais je crois que les problèmes des droits de l'homme ne doivent pas seulement de nos jours être vus par rapport à la situation des femmes, parce que je crois, et moi j'attendais qu'on commence aussi par rappeler, rethématiser ce qui vient de se passer en Libye. Je crois personnellement que la question du droit de l'homme doit encore être de nouveau bien être enseignée par tous les citoyens africains dans leur intégralité. Parce que on parle bien de cette déclaration des droits de l'homme dans son intégralité. Et je sais que les citoyens avertis savent les mobiles qui avaient poussé à ce que cette déclaration puisse être émise ou quoi. Mais seulement quand on voit les différentes conditionnalités dans lesquelles cette déclaration est appliquée dans certains pays, et là je dirais comme votre invité que cette déclaration n'est pas encore convenablement enseignée, cette déclaration n'est pas convenablement encore appliquée. Et comment pourrions-nous parler de ces droits de l'homme dans ce genre de pays où les injustices sociales sont monnaie courante, où la justice est prononcée par rapport aux appartenances sociales, où les libertés d'expression des citoyens sont restreintes, où les salaires des travailleurs sont détournés, où l'accès à la santé, à la scolarité, à l'habitat, à l'emploi, l'accès à la vie décente, l'accès à l'information pose encore problème. Vous voyez là que si on doit parler des droits de l'homme dans nos pays du tiers-monde, nous avons encore un long cheminement à faire. Ça, c'est d'abord du niveau général. Et par rapport à notre pays, là, on peut encore voir comment la même déclaration est appliquée. Et personnellement, je trouve que c'est pas seulement par rapport au Congo. La question des droits de l'homme dans nos pays africains n'est pas encore convenablement appliquée. Parce qu'on parle des droits de l'homme à gauche, mais à droite, on veut appliquer la dictature. Est-ce qu'on peut parler des droits de l'homme par rapport aux citoyens à qui on prive les droits de mettre leur point de vue? Est-ce qu'on peut parler des droits de l'homme par rapport aux gens qui sont contraints à une exploitation économique? Est-ce qu'on peut parler à un droit de l'homme par rapport aux agents dont les salaires, qui pourtant est un droit, sont détournés? Est-ce qu'on peut parler des droits de l'homme dans un pays où on ne veut pas qu'il y ait vraiment la justice. La justice est prononcée selon les appartenances.
Voilà.
Et
alors, Franck, tel que vous l'avez dit, Franck, il y a beaucoup de choses à faire. Ça dit que le chemin est encore très long. L'accès à la justice, l'accès aux sociaux, aux services sociaux des bases, c'est une question qui se pose. L'inégalité dans la redistribution de ressources du pays aujourd'hui, les gens n'ont pas accès à l'emploi. Cela veut dire qu'il y a encore un grand travail qui doit être fait, beaucoup d'efforts qui doivent être fournis pour arriver vraiment à élever le niveau de la situation des droits de l'homme dans notre pays. Et vous avez voulu aborder ça d'une manière globale, sans seulement se focaliser, par exemple, sur la question de la femme. Merci beaucoup, Franck. On retourne ici à Kinshasa avec vous, M. Murindi. Vous êtes avec nous sur les antennes. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, vous avez suivi Franck, lui, évoquer tout à l'heure qu'il faut aborder cette question dans sa globalité. Y a-t-il aujourd'hui une particularité dans cette question des droits de l'homme? Aujourd'hui, les femmes sont plus victimes, mais y a-t-il aussi d'autres particularités aujourd'hui dans cette question qu'on peut évoquer dans le cadre de cette célébration?
Oui, tout à fait. Vous savez que la déclaration du universel des droits de l'homme est née suite à l'épuration ethnique sous le régime nazi. Il faudrait pas que les gens oublient l'origine de la naissance des droits de l'homme. Les droits de l'homme tirent son origine par rapport à la deuxième guerre mondiale, quand le nazi, l'Allemagne a été vaincue par les Alliés, et aussi par rapport à la Révolution française. Rappelez-vous des déclarations des droits des citoyens de 1787. Donc aujourd'hui, la question des droits de l'homme est à l'épicentre de la vie sociale de tout un peuple, de toute une nation, parce qu'elle est la réponse face aux antivaleurs, face aux atrocités. Alors, dans notre pays, il y a lieu de relativiser, de dire qu'il y a effectivement des efforts de gauche à droite en ce qui concerne l'opinion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, même si par ailleurs il y a certains reculs regrettables. Mais au niveau institutionnel, nous devons apprécier le respect des droits de l'homme au niveau institutionnel à ce qui concerne, par exemple, les entreprises publiques. J'aimerais, à ce niveau-là, préciser exactement ce qui se passe, par exemple, à l'OGEFREM, où nous voyons le citoyen congolais être licencié, non pas par le fait qu'ils ont commis des faits répréhensibles à la loi, mais par le simple fait qu'ils appartiennent à une certaine communauté. Et là, le droit de l'homme condamne cela lorsque nous voyons l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui rappelle que tous les êtres humains naissent égaux en dignité et en droit. Et lorsque nous voyons aussi l'article 5 et même 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui condamne et qui refuse des traitements discriminatoires, des traitements inhumains dégradants, nous pensons qu'à ce niveau-là, il y a un effort à faire. Donc dans notre pays, la violation des droits de l'homme se situe plus au niveau institutionnel, au niveau des entreprises publiques, où vous voyez un directeur général qui se comporte entre guillemets en Hitler en miniature, qui ne respecte pas les valeurs communes, le droit reconnu aux travailleurs. Quand un travailleur réclame ses droits, on le chasse, ou quand un travailleur a le malheur d'être d'une ethnie donnée, par exemple peut-être du Bandundu, du Congo central ou de l'ethnie Baloubakat, eh ben il est licencié abusivement.
Alors, s'il vous plaît, monsieur Mirindi, je voudrais vous retenir là-dessus parce que en dénonçant de tels faits, c'est assez sérieux, assez grave. Mais est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il eu des démarches aujourd'hui dans un cas plus précis comme celui-là, que les droits des gens sont bafoués dans une entreprise publique, que les gens soient licenciés parce qu'ils n'appartiennent pas, par exemple, à une telle province? La Constitution elle-même ne prévoit pas que ça puisse se faire comme ça. Nul ne peut être écarté parce qu'il appartient à une religion ou une. Mais est-ce qu'à ce niveau, peut-on dire si qu'on ait fait des démarches pour quand même remettre les gens dans leurs droits dans une situation comme celle-là?
Que nous faisons confiance aux institutions de notre pays. Nous avons saisi Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour que effectivement l'épuration ethnique professionnelle qui se passe à l'OGEFREM soit bannie, parce qu'on ne peut pas admettre cela. Nous avons aussi saisi l'Assemblée nationale. Il y a un député nationaliste qui a inscrit cette question à l'ordre du jour, une question orale, et pour laquelle le vice-premier ministre, ministre des Transports, sera interpellé parce que le GFREM est sous sa tutelle. C'est autant de démarches, et nous pensons même que Madame la ministre des Droits humains, qui a reçu un coup brillant par l'adhésion, l'acceptation de la RDC dans le Conseil des droits de l'homme, devrait s'en préoccuper. Nous pensons qu'aujourd'hui, grâce à votre radio, que le message de compatriotes congolais de l'Ouest, des ethnies du Grand Bandundu, des ethnies du Congo central, des ethnies de Baloubakati, tous ceux-là qui ont été licenciés, tout simplement parce qu'ils appartiennent à une ethnie congolaise, alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme interdit cela, notre pays a souscrit à tous ces instruments internationaux et notre pays reconnaît et garantit ces différents droits. Nous pensons que la haute hiérarchie de ces pays va se saisir et que nous devons éviter, parce que nous devons nous rappeler l'origine même de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Merci, merci beaucoup.
Le droit de l'homme est né suite à la tyrannie au niveau de la France avec la Déclaration des citoyens et aussi au niveau de l'Allemagne. Quand on a commencé à nettoyer professionnellement les juifs, non pas parce qu'ils étaient incompétents par rapport à leur travail, mais parce qu'ils appartenaient à une ethnie qu'on appelle la race juive, et que quand on commence à voir cela se manifester à l'OGFM, en République démocratique du Congo, c'est une alerte.
Merci, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Murindi. On sait quand même que c'est des faits comme ça peuvent être porté hein, devant qui quel responsable qui peut s'en occuper, mais nous pensons que dans l'idée aujourd'hui où on doit vivre dans cette intégration, le droit de chacun, des questions comme ça pourraient être traitées hein, à différents niveaux, comme vous avez interpellé les uns et les autres, qu'on arrive 70 ans après à intégrer la dimension globale de la cohabitation, de la vie dans le respect des uns et des autres. Olivier, vous êtes à Kisangani. Merci de nous avoir rejoint. Bonjour Olivier. Olivier, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, dommage, on a perdu Olivier. En attendant, peut-être qu'on puisse apprendre John. Nous revenons dans ce studio à notre invité, monsieur Idi Bilondu à Simon. Vous avez suivi les comportements qui sont exprimés. On estime que on peut se focaliser sur la question de la femme, mais ils estiment que l'ampleur du problème des droits de l'homme dans notre pays demande aussi qu'on puisse avoir une vision assez élargie. Et ce que M. Mirindi dit, par exemple, dans une entreprise publique qui s'efface des cas comme ça, c'est vraiment des cas pour lesquels il faudrait se pencher.
Merci beaucoup au premier intervenant. Je dois rappeler ici que les droits des femmes, c'est aussi les droits de l'homme. Mmh. Et donc, il n'y a rien à dire qu'on se focalise plus sur les droits de femmes que c'est des hommes. Mais d'ailleurs, au regard même des données démographiques, elles sont les plus majoritaires. Et dans les faits, comme je disais tantôt, c'est que quand on regarde le contexte, comme je disais, les conflits armés, les contextes politiques, les entreprises, qui paye plus les pots cassés de tout ça? Ce sont les femmes. Vous avez appris. On ne va plus rentrer dans les faits qui se sont passés à Kasika, Makobola, Katogota, où des femmes ont été enterrées vivantes. Récemment, dans les conflits au Tanganyika, dans les territoires de Nyuzu, il y a eu des femmes enceintes qui ont été éventrées. Il y a eu des trucs bizarres. Si on revient dans les entreprises, combien de femmes ont été abusées dans les entreprises puisqu'elles étaient seulement femmes? C'est de ça qu'on c'est pourquoi
et même quand il y a des licenciements, c'est des femmes, des enfants
qui subissent tout cela. Et combien de ménages survivent aujourd'hui ou tiennent debout aujourd'hui à cause des femmes? Moi qui vous parle, je suis le produit d'une femme qui s'est bâtie pendant toute la guerre où il n'y avait pas de salaire, mais on a survécu puisqu'il y avait une femme qui s'est démené ça et là. Et donc, on rentre pour parler de ces droits de l'homme-là. Les droits de l'homme, en fait, c'est pour permettre à quiconque de vivre la vie telle qu'elle se doit. Ça veut dire, si on pense que je dois parler de quelque chose, je dois faire quelque chose pour obtenir ceci ou cela, et qu'on ait cette liberté-là. Mais qu'est-ce qui arrive? Il arrive que, souvent, quand on veut entreprendre cela, on ne l'entreprend pas avec aisance. Je donne l'exemple. Quitter Rutshuru, de Kiwanja jusqu'à Goma, vous allez trouver plus de 27 barrières. Et ces 27 barrières, une femme qui paye un sac de maïs, supposons à 20 000 francs, et elle doit payer ces 27 barrières-là à 1 000 francs, vous voyez, elle va gagner combien? En plus des taxes. Est-ce qu'elle se sent vivre aisément dans son pays? Non. Or, on est censé... Le rôle régalien d'un État, c'est de protéger en fait sa population et de ses biens. Mais en ce sens-là, peut-on dire que ces personnes-là ont été protégées pour dire que leurs droits de vivre ont été respectés. Voilà. Donc, notre intervenant de Vienne a fait allusion à ce qui se passe en Libye. Bon, c'est vrai, on déplore tous ce qui se passe en Libye, mais ça s'est passé ici. Il y a des gens qui ont été, comme je disais, qui ont été éventrés, des gens qui sont tués nuit et jour. Et donc, on doit parler de ça. Donc, j'ai lu récemment que notre ministère des Congolais des étrangers a identifié autour de 31 personnes en Libye. Donc, c'est trop minime par rapport aux gens qui meurent nuit et jour ici. Combien de gens sont arrêtés arbitrairement ici? Je vous signale, par rapport, puisqu'on parle des droits de l'homme, allez dans les zones minières, allez dans le Kouérékilé, un policier, essayez un peu, parce que de toucher un policier. Je prends l'exemple des Mississi, où la première amende, c'est 100 000 francs. Donc, sans quoi que ce soit, on vous taxe de cet argent.
Donc,
vous voyez tous ces éléments-là qui concourent au non-respect des droits de l'homme. En fait, comme je disais ici, il fallait faire la part des choses. Sur les cadres légaux, on a des bons cadres, un bon cadre légal, mais dans les faits,
et c'est un problème de volonté.
Oui.
Est-ce que Olivier est revenu sur les antennes? On a eu des petits soucis tout à l'heure avec la ligne de Olivier qui est à Kisangani. Olivier, vous êtes avec nous?
Avec monsieur le journaliste.
On vous écoute, Olivier.
Bonjour à Joe Kati, bonjour également à la communauté du jour, la part de l'Olivier, je suis en ligne à Paris, Kisangani. À mon humble avis, monsieur le journaliste, je pense que la célébration de la journée internationale de la déclaration des danseurs, des droits de l'homme, est un moment qui devrait être médité, ça réservant des hommages dignes à tous les Congolais qui ont péri parce qu'ils n'agissaient pas correctement de leurs droits. Et ceci dit, la sensibilisation et la mobilisation des élèves dans les différentes écoles n'interdit à rien pour le compte de la RDC. Mais plutôt, si on sensibilise quasiment tous les citoyens, voire même toutes les groupes sociales, voire même politiques de la RDC, ça pourrait amener à ce qu'il y ait amélioration des conditions des droits de l'homme en RDC. Voyez-vous, monsieur le journaliste. Et si, monsieur, les décideurs politiques, pourquoi les agents de l'ordre public, si j'étais à la division à la police, l'armée, ainsi que les agents de renseignement, pour ne pas aussi laisser les forces armées, serait ici à la base de la manipulation des droits de l'homme à travers, par exemple, les interdictions à manifester pacifiquement pour le compte des décideurs politiques, les arrestations arbitraires, si j'ai fait allusion aux groupes armés, donc disons, pas groupes armés à la police et aussi à l'armée nationale, et aussi la violence faite aux femmes, et pas d'autres. Et si, pour maintenant revenir à la thématique du jour, pour améliorer la situation des droits de l'homme en RDC, le gouvernement doit tout d'abord éradiquer les groupes armés qui font la gestation partout dans les pays. Ensuite, déférer devant la justice tout militaire ou policier, ou soit les agents des renseignements qui foulent au pied les droits de l'homme. Et enfin, sensibiliser et mobiliser les peuples congolais de ses droits et du pouvoir que je tiens pour
chacun. Exact. Et d'ailleurs, oui, en parlant de campagne de sensibilisation, vous avez estimé qu'on ne peut pas tout simplement se limiter au niveau des écoles, des élèves pour leur sensibilisation. Il serait mieux d'aller plus loin, mais focaliser plus les travaux auprès des services de sécurité, des policiers, des militaires, des services de renseignement, déférer devant les juridictions ceux-là qui bafouent les droits de l'homme, ceux-là qui violent les droits des femmes. Mais il faut aussi sensibiliser l'ensemble de la communauté pour que chacun arrive à défendre et à réclamer ses droits. Merci beaucoup, Olivier. John, vous êtes à Bukavu. Bonjour, John.
Bonjour, Radio Kati. Bonjour à notre invité.
On vous écoute, John.
Moi, j'ai dit que la Déclaration universelle des droits de l'homme à la République démocratique du Congo n'est pas à respecter parce que les personnes qui doivent protéger, ce sont les personnes qui bafouent les droits de l'homme au pied. Prenons l'exemple de notre chef responsable au pays, ce sont les peines de personnes qui bafouent ces respects. Donc cette la DIDH, mais parce qu'on ne comprend pas comment, avocat, vous, on peut réprimer même les étudiants qui veulent manifester. Je vous dis, messieurs les journalistes, qu'en République démocratique du Congo, précisément ici, à Bukavu, on ne peut plus manifester. Je me demande que pourquoi on ne peut pas manifester alors que c'est un droit garanti par la Constitution. Donc vous comprenez que les responsables de ce pays, donc ce sont les premières personnes qui doivent faciliter cet aspect-là des droits de l'homme, alors que ce sont les premières personnes à réprimer les manifestants. Quand j'ai fait aussi à travers le pays, il y a des groupes armés, il y a des kidnappings, il y a des femmes violées. Chaque jour, on consiste à des femmes violées, des personnes tuées. Là, je me demande comment. Je pense que c'est vrai, le travail abattu par la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un travail vraiment salué, parce qu'au moins, elle a commencé aujourd'hui à sensibiliser les jeunes élèves. Je pense que ça vaut la peine, parce que ce sont les jeunes, ce sont les élites, je pense que ça vaut la peine. Parce que
ça vaut la peine, comme vous l'avez dit, John, de pouvoir sensibiliser les jeunes, les élèves dans les lycées, les collèges. Merci beaucoup, John. Vous estimez qu'il faut sensibiliser, hein, parce qu'eux, ils seront le responsable de demain. Si jamais la sensibilisation commence au niveau de la base, ça sera très bien. Mais dès lors qu'il y a autant de problèmes d'interdiction des manifestations, ça sera difficile, comme vous l'avez dit, à Bukavu. C'est difficile aujourd'hui de manifester, les étudiants. Mais ce sont des cas qui arrivent presque partout, hein, des fois avec des altercations. Et dans ces conditions, si on ne peut pas exprimer ses droits, c'est difficile de dire que la situation a beaucoup évolué. Merci beaucoup. On retourne ici à Kinshasa avec vous, Alain. Bonjour.
Bonjour, Radio Capi. Je suis présentement en Bandaka.
Oui, Alain, on vous écoute. Vous êtes en Bandaka, oui.
Je salue tout le monde, en commençant par votre invité.
Merci.
On vous écoute. Moi, je crois que nous devons éviter de prendre les indicateurs dans l'air absolu. Il faudrait reconnaître qu'il y a des avancées qui sont louables d'ailleurs, en matière de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Si vous prenez déjà au niveau de la Constitution, il y a plus de 50 articles qui sont basés essentiellement sur le droit de l'homme, en commençant par l'article 11, qui reconnaît la sacralité, l'égalité, et jusqu'à l'article 60, si je ne m'abuse, 61 de la Constitution. Ce qui veut dire que l'État met un accent particulier sur le droit de l'homme. Il y a le CNDH qui a été créé, qui a comme mission de veiller à ce que ces dispositions constitutionnelles soient appliquées. Donc moi, personnellement, je salue les efforts qui sont fournis par les institutions, mais je leur demande de veiller à ce que les efforts soient plus centrés sur aussi sur la sanction, parce qu'il ne dépend pas de l'État lorsque un policier, par exemple, qui abuse de son autorité, et qui viole le principe de droit de l'homme. Il revient par contre à l'État de sanctionner ces policiers. Voilà pourquoi nous voyons aussi des procès qui existent. Donc si nous voulons assez que nous puissions avancer, reconnaissant qu'il y a des efforts, quand même qu'il y a des faiblesses en termes d'application, parce que ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est de voir des gens qui sont commis pour veiller à ce que le droit de l'homme soit respecté, soit eux-mêmes à la base de la violation des droits de l'homme. Donc voilà pourquoi j'insiste sur les sanctions, mais aussi j'appuie l'idée de la sensibilisation. Parce que là, nous sommes en face d'une réalité culturelle. C'est-à-dire que ce sont des valeurs que nous voulons promouvoir, qui doivent se heurter nécessairement à l'animalité empirique ou aux considérations traditionnelles qui existent. Parce que lorsqu'on dit qu'il y a des femmes qui sont violées, c'est vrai, l'État n'est pas directement impliqué parce qu'il n'y a aucune disposition de loi qui permet à l'un ou à l'autre de violer une femme. Mais quel est le rôle de l'État quand il y a viol? Il faudrait arrêter la personne, déférer devant le cours des tribunaux, les juger, les condamner, les sanctionner, et ainsi on va décourager les autres qui auront tendance.
Merci.
Mais lorsqu'on dit qu'il y a un cas de viol à l'Est, on impute la responsabilité à l'État comme si c'était l'État qui avait violé. Non, ce n'est pas l'État qui a violé, ce sont les individus, mais la faiblesse de l'État se constate au niveau de la sanction.
Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup, Alain. Voilà, merci. Merci beaucoup, Alain. Au-delà de la sensibilisation, il faut que les personnes qui violent les droits soient arrêtées, soient sanctionnées. Et vous l'avez dit, ça devient très difficile quand c'est ceux qui sont censés protéger les droits de l'homme qui sont accusés. 0-81-890-49-69, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. 0-81-890-49-69 pour intervenir en direct dans ces magazines.
Kassaïens et Kassaïennes, vous habitez les provinces du Kassaï et Kassaï central. L'enrôlement des électeurs se déroule maintenant. Faites-vous enrôler dans le centre d'inscription de la CENI le plus proche de votre habitation, dans votre commune ou dans votre groupement.
Quels sont les jours et les heures d'ouverture des centres d'inscription?
Les centres d'inscription sont ouverts au public de mardi à dimanche, de 7h du matin à 17h, heure locale.
J'ai ma nouvelle carte d'électeur, je voterai. Et toi?
Nous revenons à vous, Monsieur Eddy Bilondu à Simon. Et au niveau de fonds de femmes congolaises, comment les actions sont-elles aujourd'hui ciblées pour arriver quand même à atteindre un certain idéal dans cette question de droits de l'homme?
Merci beaucoup. En fait, je voudrais d'abord remercier tous les intervenants qui sont passés pour leurs interventions, mais je voudrais rassurer à Monsieur Alain qui a appelé depuis Mbandaka, que nous avons reconnu qu'il y a eu beaucoup d'avancées sur le plan légal et sur le plan institutionnel. Ça, on l'a dit, peut-être qu'il nous a pris encore. En fait, nous, au niveau du Fonds pour les femmes congolaises, nous sommes convaincus et restons convaincus que les problèmes des droits de l'homme à la base sont mieux connus par les communautés locales. Et c'est à elle de nous proposer, nous, les meilleures solutions qu'on pourrait appuyer. Et en ce sens, nous accordons un appui, je veux dire des appuis techniques et financiers au groupe des femmes ou au groupe de défense des droits de l'homme sur le terrain pour faire les sensibilisations, puisque plusieurs sont rentrés sur cet aspect-là, pour faire les sensibilisations sur les différents instruments juridiques qui protègent les droits de l'homme et ceux de la femme en particulier. Et ces appuis-là sont, comme je disais, financiers et techniques. Et ça, c'est sur toute l'étendue de la République. Et depuis que nous avons commencé, nous avons octroyé plus de 230 subventions à plus de 130 groupes de femmes ou groupes de défenseurs des droits de l'homme sur le terrain. Et il y a eu des avancées, et je rappelle ici, c'est par exemple notre appui technique et financier qui a permis la collecte des informations nécessaires, des données nécessaires qui ont aussi permis au dépôt de la plainte contre M. Tabari Tcheka, le chef du groupe armé, du groupe armé cruel au niveau de Walikale. Donc, quand il y a eu des viols collectifs de femmes, que nous avons appuyé ces groupes de femmes qui ont collecté des informations nécessaires et fiables même, et on les a déposées là où il fallait, et on a formulé la demande, le mandat d'arrêt contre M. Tabar.
Mais quand on sait aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure Alain, qu'il est, c'est des fois dommage que ceux qui sont censés protéger les droits de l'homme, ils sont le bourreau. Cela veut dire que les ONG ont tendance plus aussi à aller sensibiliser la population, c'est en allant vers la victime. Est-ce qu'il y a de plus en plus de séances de formation des policiers, des services de sécurité aujourd'hui pour leur montrer leur responsabilité face à cette question de respect des droits de l'homme?
Oui, je m'excuse. Et il y a eu plusieurs efforts qui ont été fournis dans ce sens-là. Et donc, on travaille et avec les forces de sécurité, notamment la police, l'armée, les chefs traditionnels. Vous savez que l'un des problèmes, par exemple, qui explique les violations du droit de l'homme, notamment les violences sexuelles faites aux femmes, il y a les pratiques coutumières, les pesanteurs culturelles qui pèsent suffisamment. Vous imaginez que quelqu'un qui grandisse dans un environnement où on lui dit que la femme, c'est un être, par exemple, secondaire, et qu'un jour, il devient quelqu'un dans l'armée. Donc ici, il a encore cette conception-là, donc c'est biaisé au départ. Donc on travaille déjà avec les services de sécurité, notamment l'armée et la police, Bon, bien sûr, on est limité, on ne peut pas toucher tout le monde, mais on fait des efforts. À certains endroits, ça produit beaucoup de résultats. Il y a maintenant des références qui sont en train d'être faites. Par exemple, je viens de Kalemi, où nous travaillons, nous enseignons aux jeunes filles qui sont encore à l'école secondaire à partir des deuxième CO en montant. C'est quoi les droits de l'homme? C'est quoi les droits de la femme? Et je vous assure, nous avons eu déjà autour des 30 cas qui ont été rapportés, 6 bourreaux arrêtés qui ont été déférés devant la justice maintenant. Il y a eu des enseignants qui ont commis d'abus envers les jeunes filles à l'école, qui ont été renvoyés des écoles. Et donc, on pense que, en travaillant déjà avec la justice, avec la police, et là, l'idée c'est quoi? C'est que les communautés trouvent en ça un moyen de mettre fin aux violences dont elles sont victimes. Et qu'est-ce qui arrive, les plus durs, c'est quoi? Et c'est ce que nous personnellement nous fustigeons, c'est que qu'au nom de la paix qu'on fasse taire les abus dont les gens ont été victimes. Quelqu'un a tué les gens, quelqu'un a violenté les gens, quelqu'un je sais pas a fait quoi, mais on va dire au nom de la paix on les laisse faire pourvu qu'il y ait la paix.
Et là, en principe, chaque fois,
cette paix devient fragile, puisque personne ne va faire, cette paix devient fragile.
Et chaque fois, personne ne fait confiance. En disant ça, on était au mois de février dans une émission grand public à Goma avec le gouverneur du Nord Kivu. Il a dit exactement, quand chaque fois on recourt à, on tait des dossiers parce qu'il y a la paix, parce qu'il y a l'amnistie, parce qu'on pense à tout ça, on peut penser à une personne, mais cette personne a pu causer du mal à 50, 100 personnes. C'est-à-dire que vous avez autant de victimes qui sont presque oubliées au nom, par exemple, des accords politiques, au nom des amnisties. Cela veut dire que le regard doit changer. Mais vous avez relevé quand même un élément important. La sensibilisation depuis les jeunes âges est importante parce que cet enfant qui a grandi dans un environnement où on dénigre la femme, où soit la femme n'a pas de valeur, et demain, quand il a le poste de responsabilité, il va se comporter de la même manière, d'où la nécessité de cette sensibilisation. Marie-Paul, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute.
Oui, monsieur le journaliste, il faut retenir que la protection des droits de l'homme suppose la capacité pour un État de prévenir et d'empêcher les violences des droits humains. Et aussi de réprimer toutes les atteintes de ces droits. Mais la CPC était centre des théâtres des massacres des droits de l'homme. Et par conséquent, elle présente un tableau sombre de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. La célébration, bien entendu, des 10 décembre, de chaque année de la déclaration des droits de l'homme ne doit pas être pour la RDC un moment de jouissance, mais plutôt un moment de méditation des droits de l'homme. Et voilà pourquoi nous disons que pour résoudre ces contresens de la RDC par rapport aux instruments internationaux à la protection des droits de l'homme, la RDC doit conjuguer, bien entendu, un effort sérieux de mettre l'homme au centre de l'activité politique. Et lorsque l'homme est mis au centre de l'activité politique, et cela doit aussi faire à ce que les normes soient respectées pour que les droits, bien entendu, de l'homme soient respectés. Mais parce que si nous mettons déjà l'homme à cette activité, nous allons voir qu'on doit créer, on doit mettre en place un état de droit, et lorsqu'on met un état de droit, on va lutter contre l'impunité. Nous, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons l'impunité. Il y a des acteurs, des bourreaux qui commettent, qui violent, qui font des choses, qui violent les droits de l'homme, mais ces gens ne sont pas traqués. Donc, il faut que la justice soit mise au premier plan pour attaquer, bien entendu, et tous les criminels qui commettent, qui violent les droits de l'homme.
Merci. Parce qu'on risque merci beaucoup, Marie-Paul.
Revenir sur les mêmes choses.
Voilà. Merci beaucoup, Marie-Paul. Vous avez estimé que pour la RDC, on ne devait pas en principe se réjouir pour se célébrer, mais plutôt méditer, notre situation. D'ailleurs, on se rappellera dernièrement quand la RDC a été élue pour siéger au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, de voir ont été les voix se sont élevées à gauche, à droite pour condamner cela. Beaucoup de gens protestaient. D'ailleurs, la ministre des Droits humains avait estimé que c'était là l'occasion de la RDC d'apprendre aussi aux autres et de montrer notre capacité. Et vous estimez qu'il faut plus méditer par rapport à ça. Et la question de la justice, elle est vraiment au centre de la lutte pour le respect des droits de l'homme. Confiance, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Mbote, jambo à tous les okapistes de la Radio de la Paix.
On vous écoute.
Je pense que, à mon humble avis, la clé du problème réside dans la plupart des cas dans le chef de nos dirigeants qui n'ont pas réellement la volonté politique de faire en sorte que le droit de l'homme soit vulgarisé. Donc il y a un déficit dans la vulgarisation. La crainte dans la vulgarisation, c'est que si tout le monde connaît ce droit, il est vrai que la justice aura moins de travail à faire parce que chacun lui-même deviendra juge. Et moi, je pense qu'on ne peut pas parler de droit de l'homme si on ne parlait pas de la sensibilisation, si on ne parlait pas de la vulgarisation, si on ne parlait pas de la justice et si on ne parlait pas de la sanction. Il est vrai que dans notre pays, il y a eu beaucoup d'avancées, mais dans la plupart des cas, les avancées sont faites dans le sens des autorités et non de la population. Mm-hmm. Donc, il y a une autre crainte, c'est celle de nos autorités qui se rendent compte qu'en fait, en vulgarisant la loi, en la faisant connaître à tout le monde, et il fera en sorte que certains de leurs pouvoirs soient diminués. Et moi, je pense que la vulgarisation serait la clé qui fera en sorte que si tout le monde connaît son droit, il apprendra à respecter aussi le droit de l'autre. Parce que mes droits se limitent là où commencent les droits des autres. Donc j'insisterai beaucoup sur la vulgarisation, mettre beaucoup de moyens sur la vulgarisation et beaucoup plus sur le respect. Vulgarisation, sensibilisation, justice, ainsi de suite, ce sont des choses qui peuvent faire en sorte que, au lieu de célébrer, la meilleure façon de célébrer les droits de l'homme serait l'application de ce droit dans tout le domaine de la vie de notre pays.
Merci beaucoup, Confiance. La seule manière de respecter le droit de l'homme, c'est de pouvoir respecter exactement tous ces textes et arriver à prendre des mesures d'une manière globale, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup. Adrien, vous êtes à Chabunda. Bonjour, Adrien.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Oui, bonjour. Moi, c'est Adrien Kabangumembe, président de la société civile sous-moyen de Chabunda.
Ok.
Le problème de droit de l'homme à la République démocratique du Congo, pour moi, c'est un mascarade total. Et d'autre part, devient un slogan, car ce sont les autorités de la RDC qui sont premiers violateurs de ce droit de l'homme. Alors, je demanderai ceux qui sont concernés à examiner le problème des droits de l'homme de tenir fort tout en appréhendant les auteurs. Je vous en remercie.
Merci beaucoup, Adrien. Il faut appréhender les auteurs. Alors, nous revenons ici. Idi Bilondu à Simon. Est-ce que sur le plan de la justice, dans les plaidoyers que vous menez, des cas, est-ce que les choses ont-elles beaucoup évolué sur le plan de la justice aujourd'hui dans notre pays?
Merci beaucoup. Un des défis énormes ou importants dans tout ça, c'est que on déplore trop la lenteur dans les traitements de certains dossiers. Mmh. Et même quand vous allez aller même ici, à l'épisode de Makala, vous trouvez quelqu'un qui a 3 ans là-bas et qui n'a jamais comparu devant un juge. C'est déjà un problème important. Et nous, par exemple, avec les cas de violences sexuelles, par exemple, qui ont été accompagnés, il y a eu des condamnations. Mais qu'est-ce qui se pose comme problème? C'est le problème des réparations maintenant. Mmh. On ne répare pas les victimes, on ne les remet pas dans leurs droits. Autre chose, c'est que si quelqu'un a été condamné ou quelqu'un a été mis en prison, peu de temps après, vous le voyez dehors. Vous vous demandez, est-ce qu'il faut-il encore faire confiance à cette justice? Mm-hmm. Et du coup, quand il vous trouve, il vous menace. Est-ce que prochainement vous allez faire recours à cette justice ou comment? Donc voilà un peu des difficultés. Certainement, il y a eu certains dossiers. Par exemple, je vous dis, à l'instant où je suis en train de vous parler maintenant, à Calémie, nous avons 6 bourreaux, dont ce sont les jeunes filles de moins de 16 ans ont rapporté ces cas-là à la justice. 6 bourreaux sont devant la justice. Et je félicite ici le travail que magistrat Lily, cette dame qui est magistrat à l'académie, est en train de faire là pour mettre vraiment, pour réprimer les auteurs des violences faites aux femmes. Et donc, il y a des avancées, il y a certains résultats, mais il faut voir, est-ce que ils sont punis à la hauteur des forfaits qu'ils commettent.
Et ça, d'ailleurs, c'est très important. Cette question a été évoquée plusieurs fois dans nos émissions, la relation entre la justice et le travail tous ceux qui travaillent dans le domaine du droit de l'homme. On s'est plaint de la libération provisoire, mais de plus en plus dans les milieux ruraux et dans les milieux dans l'arrière-pays, les cas de violences sexuelles finissent aussi par des arrangements à l'amiable. Hein. C'est une pratique qui était déjà très très courante, mais bon, il y a des cas de pauvreté. Quand il y a une jeune fille qui a été abusée, il y a des familles qui estiment que le monsieur peut payer à la famille les réparations nécessaires. Et dans un contexte comme ça, ça devient aussi très difficile de pouvoir faire face à ça et convaincre les gens à pouvoir apporter autant de sujets de ces cas-là à la justice.
Oui, c'est ce que je disais tantôt ici. Quand on voit un premier cas, deuxième cas, et puis on se dit, du coup, on ne peut plus faire confiance à cette justice. Ça ne vaut pas la peine qu'on aille à la justice dès lors qu'on s'est aussitôt mis au cachot, aussitôt qu'il est libéré. Vous voyez la peine que ça fait au cœur. Imaginez que vous avez votre bien immobilier et quelqu'un vous les ravit. Vous allez en justice, il sort de plus en plus gagnant. Donc, du coup, on a l'idée en tête qu'on a affaire à une justice des plus forts.
Et comme le disait depuis le début notre ami Franck. Alors, on va écouter John Odian qui est à Isiro. John, bonjour.
Bonjour à tous les radio Capi.
On vous écoute, John.
Oui, vraiment, je salue l'invité. Concernant le sujet, vraiment, les droits de l'homme ici en RDC, si on peut les parler, nous sommes encore loin de parler des droits de l'homme, ni des droits de la femme, parce que ce qui se passe au Congo, c'est terrible. Si vous prenez le cas des femmes, vous voyez que non, les femmes sont violées parce que le pays est en insécurité. Si vous prenez le cas de Nord-Kivu, la femme n'a même pas le droit d'aller au chef parce qu'elle a peur d'être violée. Vous voyez que c'est vraiment terrible. C'est que je déplore vraiment à tout moment de ce qui se passe dans mon pays. Concernant maintenant, si nous prenons les droits de l'homme en général, pour le Congolais, c'est terrible, M. Pierrot. Parce que si le plan économique, si le plan éducatif, si le plan sanitaire, c'est déplorable. Il n'y a personne qui peut même réclamer maintenant les taux de dollars, les taux de consommation. Comme nous approchons maintenant la fête, maintenant, il n'y a personne qui va nous défendre les causes des Congolais concernant leurs droits, que non, pourquoi il y a ceci, il y a ceci. Vous voyez que nous sommes dans un pays là où la population s'est abandonnée.
Alors, John, comme vous l'avez dit, cela veut dire que si d'un côté, il y a des gens qui subissent les affres de l'insécurité, les femmes qui ne savent pas aujourd'hui accéder aux champs, aller au marché à cause de l'insécurité. Si d'un côté, il y a ceux qui sont victimes de l'insécurité, qui profitent aux bourreaux pour violer les droits des uns et des autres, mais il y a aussi de l'autre côté ceux qui sont victimes du cas de la destruction du tissu socio-économique et les gens ne savent pas à quel sens c'est voué. C'est l'ensemble de ces droits qui doivent être considérés comme notre constitution le prévoit. Merci beaucoup, John. Eli Lokwa, vous êtes en Bandaka. Bonjour, Eli.
Bonjour Radio Capi, bonjour à l'invité.
On vous écoute, Elie.
Oui, merci. Je voudrais un peu faire un petit commentaire et puis j'aurais posé une question à l'invité qui est maintenant au studio. Donc, la situation du droit de l'homme, en quelque sorte, est dans notre pays, comme les autres ont déjà soulevé, qu'il y a quelque part des avancées, mais la plupart des cas, on est même contraint de pouvoir... de pouvoir jouir de toutes nos libertés comme citoyens congolais dans notre propre pays. C'est parce que maintenant, il se pose un petit problème dans la nouvelle province de la Chopa, laquelle, s'il vous plaît, Madame Isabelle Bossaco, parce qu'il y avait une représentation provinciale de la CNDH qui est vraiment saisie de l'information. Et cette dame, voilà, elle n'est pas membre du mouvement citoyen, mais tellement que son nom fort, et il est point focal de ce mouvement citoyen qui est la louche dans cette province de l'Équateur, de la Tchopa, s'il vous plaît, et que le gouverneur de province a donné ordre au chef de division provinciale pour suspendre cette dame dans son travail. Ce qui voudrait dire aussi que les droits même de la femme n'est pas respecté dans notre pays, même voir dans cette province, cette femme est suspendue de son travail jusqu'à ce qu'elle ne pousse pas jure de ses fonctions. Ce qui n'est pas tout à fait exact dans un état de droit, parce que tous les griefs qui ont été ciblés par le gouverneur de province, parce que cette dame s'est portée et donné son concours dans un mouvement citoyen qui met en danger la sécurité de l'État. Et nous nous demandons, nous nous posons des questions. Isabelle Bossaco a prêté son concours dans un mouvement. Est-ce que le mouvement citoyen peut en quelque sorte donner pour porter atteinte à la sécurité de l'État? C'est ça, entre parenthèses. Là, je pense que
alors, Lico, oui, alors, Élie, merci beaucoup. Vous avez dit, c'est son fils plutôt qui est membre du mouvement citoyen, c'est pas sa maman, l'infraction est individuelle. Le fils, quand il est majeur, il a pris la décision, il peut adhérer à un parti politique qu'il veut, il peut adhérer à quel mouvement citoyen il veut, c'est dans sa liberté. Mais sa maman, suspendue par le gouverneur, pourquoi? Parce que son fils aurait été membre d'un mouvement citoyen. Je crois que c'est un cas qui peut être suivi autrement. Merci beaucoup, Élie. On revient à vous. Vous avez posé cette question à notre invité de savoir si cette femme peut être suspendue à son travail. Pourquoi? Parce que son fils est membre d'un mouvement citoyen. Et on en profite, bien sûr, Monsieur Simon, pour conclure cet échange.
Merci beaucoup. Merci, Monsieur Élie. En fait, on ne peut pas punir quelqu'un pour des erreurs qu'il n'a pas commises. Si son fils est membre d'un mouvement citoyen, ça ne concerne que son fils. Et si elle est responsable de la CNDH en province, elle est responsable de la CNDH. C'est parallèle. Donc, ça ne se croise même pas. Mm-hmm. Deuxièmement, notre constitution garantit déjà les droits et la liberté d'association. Donc, si quelqu'un fait partie des mouvements citoyens, c'est une association et donc, c'est protégé et c'est reconnu par la loi. En guise de conclusion, comme je disais, pour notre mission, c'est de voir un Congo où les femmes vivent loin de la violence et dans leur intégrité physique. Nous voulons voir une justice d'équité. Une justice qui n'est pas la justice des plus forts. Une justice qui n'est pas la justice des nantis. Une justice qui s'applique et connue de tous et qu'on se sente vivre aisément dans ce pays.
Mais au-delà, au regard de tous les faits, pensez-vous aujourd'hui qu'il y ait la volonté politique pour arriver vraiment à avoir cet espace où le droit, chacun peut jurer de ses droits?
Bon, en tout cas, je ne voudrais pas aller dans un jugement dire qu'il y a volonté ou pas. Mais tout ce qu'on veut voir, qu'on applique les textes, les textes légaux qui sont là. J'étais en province, vous passez au bureau de CNDH, tout le monde pleure et ça ne fonctionne même pas. Vous passez ça et là, donc ça ne marche même pas. Et ce qu'on veut, en tout cas, je ne vais pas dire qu'il y a volonté ou pas.
Merci.
Mais on veut voir des textes appliqués tels qu'ils ont été promulgués ou tels qu'ils ont été ratifiés pour les instruments internationaux.
Merci beaucoup, Monsieur Simon Idi Bilondoua. Vous êtes chargé de programme au fond pour la femme congolaise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aux auditeurs. Vous avez été nombreux à commenter ces sujets. Et nous avons Nico Kalambay dans ce studio. Nico, bonjour.
Bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs.
Et on rappelle demain, le rendez-vous c'est à 10h.
C'est à 10h demain et on a donc rendez-vous avec tous les auditeurs pour débattre autour d'un autre thème. Vous savez, la semaine dernière à Kinshasa, les étudiants de l'Institut des bâtiments et travaux publics, IBTP, étaient dans la rue pour protester contre la décision du directeur général de leur institution concernant le taux à payer pour les frais académiques. D'après ces étudiants, le DG leur exige de ne payer les frais qu'en dollars, une situation qui a provoqué un accrochage entre les étudiants et la police. Et notons que des cas similaires, Pierrot, sur le paiement des frais ont été enregistrés dans d'autres établissements. établissements d'enseignement supérieur et universitaire à travers le pays. Et la question c'est, selon vous, que faut-il pour arriver à harmoniser la situation des frais dans ce secteur?
Vous savez, ça a bougé, je pense aussi à l'UFC de Kinshasa hier,
en Bougimaï,
à l'ISC, à l'ISTA, et si, rappelons qu'avec CAS, en Bougimaï, il y a eu même des CAS. Alors nous allons nous pencher sur ça demain. Étudiants, appelez-nous, professeurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même qu'on arrive à harmoniser, qu'on sache on doit payer combien. Est-ce que c'est en francs congolais? Est-ce que c'est en dollars? Quel est le taux qui doit être appliqué?
C'est important. Alors, il faut également demander à nos auditeurs de laisser leur numéro. Quand ils nous écrivent sur notre page Facebook, il est important qu'ils laissent leur numéro pour que nous puissions rappeler.
Et qu'ils soient disponibles le lendemain. Demain, voilà. Ils peuvent déjà commencer à appeler à partir de 9h au 081-890-49-69. Merci beaucoup, Nico.
Merci, Pierrot.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
Merci à Willem Lungamba qui a mis en onde ce magazine réalisé par Nico Kalambay qui était aussi au standard. Pierrot et la Meiji vous l'a présenté sous la supervision de Martin Sebujangwe. Parole aux auditeurs, c'est sur www.radiocapi.net. On se retrouve demain pour un autre numéro. Au revoir.